et la captation par la relation d'emprise nous apparaît ainsi fondamentale dans notre pratique. Plusieurs éléments fondent cette thérapie active, dont certains ont déjà été soulignés. Travail en équipe, recours aux cothérapies, refus des secrets pathologiques et position ferme vis-à-vis des transgressions qui n'excluent pas l'écoute. À partir de ces définitions d'attitude thérapeutique, certains éléments plus spécifiques peuvent être amenés, notamment dans la prise en charge des agresseurs sexuels. Nomination des faits dans le respect de la pudeur des mots, aide à la verbalisation des émotions, reconnaissance des éléments de vulnérabilité personnelle pouvant conduire au délit. Mais, à la différence d'approches centrées sur le symptôme, c'est bien dans la perspective de la reconstruction d'une histoire singulière, de la revivissance des affects et des représentations au support d'un transfert que se construit la relation thérapeutique. Le cadre et la non-passivité thérapeutique peuvent permettre que s'expriment des enjeux du patient, surtout dans ce qu'ils mettent en scène d'exclusion et d'abandon, de carence de référence à la loi, d'absence de figure rassurante et structurante, de perte de l'estime de soi, du manque du respect de l'autre en écho à l'irrespect dont ils ont été victimes. Toutes choses qui sont directement en jeu dans ce qui s'articule avec le monde carcéral et qui font les développements à venir dans les soins en milieu pénitentiaire. Je vous remercie.
Infiniment Bruno Gravier pour ce regard critique. Je n'en attendais pas, moi. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir M. Lorenz Schild, qui vient de la Suisse allemande, aumônier de prison à Pochevilly. Il est aussi délégué à l'Office fédéral de la santé dans la commission pour les prisonniers, la commission des soins pour les prisonniers. Je laisse la parole à M. Lorenz Schild.
Bonjour. Je vais d'abord parler de mon expérience en tant que pasteur et aumônier. Vous savez, un pasteur appartient à deux institutions, celle de l'Église et puis celle de la prison. Et ce n'est pas toujours facile de gérer les deux au même temps. Et pour finir, je vais essayer à répondre au sujet « La prison pour protéger la société », etc., qui me semble assez difficile et parce que c'est un terrain assez glissant. En lisant un article sur un psychiatre roman que vous tous et vous toutes le connaissez, dans le journal du Tagesanzeiger il y a un mois, et jetant un coup d'œil dans son ouvrage Kulturbestrebungen in der Gegenwart, je me suis posé la question de la localisation du mal. C'est donc d'où vient mon premier titre, chapitre, la localisation du mal dans l'autre. Le célèbre psychiatre Auguste Forel, directeur de la clinique du Burghölzli à Zurich, il y a plus que 100 ans. J'aimerais dire quelque chose qui m'a un petit peu bouleversé, qui m'a travaillé, et donc qui me semble assez important de ne pas le perdre. Parce qu'aujourd'hui, aussi avec la médecine moderne, n'est-ce pas, on peut toujours retomber dans certains domaines comme ça. Alors, celui-ci exprimait une image de l'être humain autrefois largement représenté qui excluait certaines minorités de la vie sociale. Parmi eux, qui étaient différents, il y avait entre autres des homosexuels, des noirs, et autres, ils voyaient des malades psychiques dont certaines devaient être placées dans des institutions et des hommes psychiatriques. Il est d'avis que les maux de la terre sont innés et non inculqués, et que le mal avait été localisé dans le cerveau humain. Tout ce que l'homme est capable de réaliser tient son origine dans le cerveau, et ainsi il s'exprime. Que sont la théologie, le droit, les sciences exactes, l'art, la fantaisie, la guerre, etc., l'amour, dans l'histoire de notre culture, si ce ne sont des processus individuels ou sociaux qui tirent leur origine du métabolisme cervical? Là, il parle du Gehirnleben. J'ai jamais entendu cette expression en allemand. Et c'est ainsi donc le cerveau de l'humain qui devient le critère d'acceptation de l'individu dans la société. Aussi son élève et son successeur, Eugen Bleuler, le suivaient à la trace dans cette époque. Dans son ouvrage « Les criminels nés », il développe la thèse de l'agissement criminel dans le berceau. Une telle façon de penser peut avoir des conséquences fatales pour les personnes concernées. Aujourd'hui, nous savons que le problème du mal dans certains individus ne peut être réduit à l'origine cervicale. Bien plus, cela dépend de notre regard que nous portons sur celles et ceux qui nous paraissent différents. Et quant à moi, j'y inclurai les malades psychiques. Les homosexuels, les noirs, les juifs, les étrangers incarnent toujours et encore une sorte d'imagerie ennemie que certaines personnes veulent combattre. Ainsi encore aujourd'hui, et pour une grande partie, la survie d'un accusé dépend aux États-Unis de la couleur de sa peau et de l'appartenance raciale de sa victime, dit un représentant de Amnesty International. Pour une personne de couleur noire qui a assassiné un blanc, par exemple, le risque d'être condamné à mort est 11 fois plus important que dans le cas contraire. Pouvons-nous combattre de telles opinions? Peut-être notre sens du discernement peut nous aider à concevoir que chaque individu, indépendamment de la couleur, de sa peau, de sa race, et de son état de santé, de sa religion, et ainsi de suite, peut un jour devenir un candidat du mal. Ou bien pour le mal. La localisation du mal n'est donc pas toujours dans l'autre, mais dépend aussi de notre tolérance. Et maintenant, j'aimerais justement citer quelques phrases. J'ai l'habitude de demander des détenus quand ils sortent comment ils ont vécu la prison. Et il me semble évident que le pasteur soit au courant de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils pensent. Quelqu'un disait, j'ai vécu être enterré vivant, ne sert à personne, chacun doit commencer avec lui-même. Un autre, banni de sa famille, de ses proches, ses amis, ses collègues de travail. Ensuite, la bonne marche de la journée, son déroulement dans lequel peu de responsabilités et à peine des décisions peuvent être prises. Celui-là, il réclame plus d'être pris au sérieux, plus de participation active. Un patient psychique me disait, en prison, il n'existe pas de matin. chaque jour est comme l'autre. Quelqu'un qui vient de l'Amérique du Sud, qui ont aussi des familles, dont des évêques dans sa famille, et des littéraires, me disaient: votre prison est un grand mensonge. Conclusion. Ainsi, les citations l'affirment. La vie quotidienne en prison se répète et est ennuyeuse. Un patient psychique l'a reconnu par ces mots pertinents. Des affirmations semblables se trouvent aussi dans la littérature. Par exemple, les pénitenciers sont des institutions reconnues par le fait de la gestion des personnes. Et je pense qu'on peut très bien le comprendre, d'être géré par une autre personne, par une institution, n'est pas très agréable. Et je le tire aussi de mon expérience, il n'y a pas que peu de pensionnaires ou des résidents qui sont insatisfaits de l'établissement pénitentiaire. Et les patients psychiques vivent la prison de façon encore plus difficile. Ils peuvent livrer des indications importantes sur les effets ou bien sur le climat de l'institution, car ils ont parfois une sensibilité unilatérale, mais aussi un potentiel de sensibilité inférieur à d'autres. D'une façon générale, dans mon travail, je ne fais pas de grande différence entre les patients psychiques et les autres. Il m'est difficile de tirer une frontière parce que je n'ai pas une formation de médecin. C'est comme une marche sur l'arête dans laquelle le chemin m'en est en partie inconnu. Dans mon rôle d'aumônier, je n'ai pas à faire cette différenciation à tout prix. Une périscope, c'est-à-dire une Bible, une phrase biblique, me suffit, celle qui me rappelle que le malade autant que les autres demande de l'attention. Et là, je me réfère à Luc 5, qui dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais bien les malades. » Jésus, lui aussi, a rencontré des gens, des malades. Et je me demande, qui sont donc ces maladies qui sévissent aujourd'hui, ces maladies, par exemple, sociales, la dépression, la violence, la dépendance à l'alcool, à la drogue, à la télévision, à la mobilité, ou bien l'égoïsme ou la prise de la place au détriment des autres. Je pense que la spiritualité peut amener quelque chose à dépasser ces maladies. Lorsque les détenus arrivent chez nous, ils sont déjà bien émoussés dans leurs sentiments. Un détenu de santé psychique peut s'adapter plus facilement. Il est attentif aux règles de l'établissement, il noue de contact avec d'autres détenus, il connaît le personnel, même s'il n'est pas toujours compris de façon optimale. Et il peut, du fait de sa personnalité, mieux réagir dans un environnement nouveau que quelqu'un qui est malade. Chez les patients psychiques, ceci est différent. Ils vivent de façon plus retirée, ils sont des victimes de leur solitude et des mesures qui sont prises, par exemple par la prise de médicaments, par un changement d'affectation, par le bunker et d'autres mesures. Et lorsqu'il y a du danger, il s'isole encore plus. Eh bien, ça peut mener à des crises émotionnelles. Je sais que quelques-uns réclament toujours d'être avec d'autres détenus, ce qui n'est pas possible chez nous à la Pejuisse, donc on a des cellules privées. Alors, quelles sont les attentes de ces résidents? Il existe des détenus qui, malgré les expériences décevantes, ont encore des attentes. Et voilà, c'est important pour moi d'aller vers ces attentes. Ces personnes ont de façon générale une base psychique plus solide. Ils sont plus enracinés. Ils ont une attente, ils ont encore une attente plus importante que le seul, par exemple, de purger simplement. Purger une peine, à quoi ça sert? Ils veulent aller plus loin, donc ils réclament plus. Par exemple, de faire un travail sur eux-mêmes, avoir la possibilité, parfois aussi le désir de réparer la faute, des fois en partie. Comment faire? Comment réparer une telle faute alors? Quelques-uns ont soif de nouveaux départs, soit relationnel, soit professionnel. La recherche de Dieu aussi est ainsi de suite. Mais ils ne peuvent en venir à bout tout seuls, car leurs ressources personnelles ou bien les structures rigides de la prison les empêchent, ne les permet pas à progresser. Alors, voici peut-être le moment de parler de la liberté intérieure. À mon avis, il ne suffit pas justement de les mettre en prison et puis pour un certain temps, comme vous mettez un yogourt dans le frigo et puis après 10 ans, après 15 ans, vous allez rechercher le yogourt et puis vous le mangez et puis il n'y a pas une transformation. C'est pas? Et encore plus, un homme n'est pas un yogourt. Alors, je pense, ce qui est souvent oublié, de vraiment travailler à l'intérieur et puis de leur offrir une liberté intérieure et pas seulement extérieure, ça veut dire attendre le moment pour en sortir. Je me tourne maintenant vers une minorité. Et parce qu'on ne peut pas demander simplement de se convertir ou de trouver la foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la foi? Et donc, même ça demande beaucoup de moi. J'ai aussi ma foi, j'ai une certaine foi, je peux m'exprimer, mais il y en a d'autres qui réclament peut-être autre chose. Alors là, je dois être très très prudent, je dois les écouter et puis essayer à répondre. Ce qui est important pour moi, c'est que offrir l'espérance, donc pas seulement laisser la place à l'espoir, mais essayer à trouver une lueur d'espérance et de garantir peut-être aussi une future, soit de chercher une place de travail, soit de chercher des personnes qui les accompagnent après. Alors, j'aimerais conclure par ce chapitre par quelqu'un sur la signification de la motivation religieuse. Une fois, j'ai demandé à un résident, peu avant sa libération, pourquoi la foi en Dieu lui est important. Et puis, celui-ci disait, ceux qui reconnaissent Dieu reconnaissent sa volonté et bien aussi ses lois, ce qui facilite aussi la reconnaissance de lois et des règlements humains. Quelles sont bien les attentes des patients psychiques ? Je présume qu'ils ne veulent pas être laissés seuls, ce qui est bien souvent le cas dans des lieux de détention. Ça veut dire qu'ils sont dans les cellules, dans les quartiers de haute sécurité ou bien dans des institutions psychiatriques. Et souvent, ils rentrent quasiment libérés, même dans la prison. Ils n'aiment pas aller dans les centres psychiatriques. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, n'est-ce pas, les patients psychiques, il me semble, c'est encore plus difficile. Alors, il faut chercher encore des meilleures places pour les déposer, parce que c'est insatisfaisant. Même pour le personnel, ils sont souvent laissés seuls parce que à 5 heures ou à 6 heures, n'est-ce pas, il y a certains du personnel qui partent, alors on les laisse et puis ils sont seuls. Et je pense que c'est peut-être pas toujours très juste. Mais je sais aussi que nous sommes liés à des structures, n'est-ce pas, de l'argent à des structures qui ont été données. J'aimerais maintenant parler d'un exemple d'un détenu qui est psychiquement malade. Un détenu de la section d'intégration. Nous avons une section d'intégration pour placer ces patients à l'intérieur de la prison. Et donc celui-ci conteste le nombre de juifs gazés et donne en principe une impression de normalité. Il est craintif, non seulement parce qu'il est cardiaque, mais parce qu'il fuit le futur et se fait beaucoup de soucis. Il prétend avoir eu de contact personnel avec Saddam Hussein, déclare qu'il peut arriver à tout moment quelque chose d'épouvantable, car il est en possession d'un secret des plus importants, mais qu'il peut divulguer à quiconque. Il sait que je suis lié à la secret pastoral, alors il s'est permis de le dire, mais pas tout. Son avis est vitrifié de toute façon. Il a été exclu de son parti politique car il prétend avoir été trop radical, de droite. En fait, il a une fois bouté le feu et c'est pourquoi qu'il a été déposé. Pour moi, ce n'est pas important s'il est malade ou pas. Je pense que mon rôle de pasteur, c'est de rester à l'écoute et de le suivre, de le contacter. J'aimerais très vite encore parler des groupes, parce que j'anime aussi des groupes en trois langues. Français, c'est un petit groupe, anglais, un petit peu plus grand, et puis un groupe en allemand. Les discussions en groupe sont une affaire délicate, mais pour moi importante. Par la participation au groupe, j'apprends plus sur l'état psychique qu'un détenu que lorsque je parle à lui seul. En plus, le résident doit faire face aux réactions de ses collègues qui peuvent le mettre dans une situation de défi parfois intense. La compétence sociale du résident en dit long pour moi sur sa santé psychique. Comment peut-il communiquer par des mots, par exemple par un style narratif, par des émotions et par des gestes? Comment peut-il s'intégrer et trouver sa place avec considération et des fois aussi avec serviabilité pour les autres? Comment peut-il, sans contrainte, devant les autres, se situer par rapport à son délit? Pas quelqu'un qui a travaillé à son passé, à son délit, il peut en parler ou mieux en parler. Je m'occupe actuellement de 3 groupes. Et puis les difficultés dans ces groupes peuvent être articulées dans les 3 domaines. Ouverture par rapport à la religion ou à la confession, parce que je ne veux pas un intégrisme ou je ne veux pas former des candidats qui peuvent être trop sévères. Ou bien des aptitudes verbales et grammaticales insuffisantes. Alors il y a des patients psychiques aussi qui ne savent pas s'exprimer. Et puis finalement, c'est la tolérance face à l'autre qui m'est important. Est-ce qu'il accepte son collègue à droite? C'est pas, ils ne sont pas choisis, ils sont venus de tous les coins du monde et puis un jour, ils sont assis sur la même table. Donc, ça, c'est assez difficile des fois à gérer ce moment. Ensuite, quelle attitude la société doit-elle prendre? Les détenus, aussi les patients psychiques, doivent avoir l'assurance qu'à l'extérieur, il y a une société qui les attend et qui est prête à les recueillir avec leur passé. Ça veut dire offrir un appartement, une place de travail, et puis garantir aussi un environnement social. Ce n'est pas toujours facile. À cela s'ajoute aussi la parenté, qui par sa façon de les accepter, par réserve ou parfois aussi par un refus, exerce une action sur le détenu et sont capables d'influencer son état de santé psychique. Bien des résidents remarquent si la vérité leur est cachée. Un nouveau départ réussira mieux si l'on parle ouvertement des difficultés. Dans de tels cas, j'essaye aussi de poser la question sur les personnes de référence, quand s'il y a encore, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas sans savoir que la tendance actuelle de la société, ça veut dire aussi la presse, la justice, les politiciens, est favorable. Les médias également en ajoutent à ce climat peu favorable et souvent dans le meilleur cas chez les détenus de notre société. Et encore un mot pour en ce qui concerne les étrangers. La représentation étrangère parmi la population est élevée. Elle est entre 70 et 80%. Et beaucoup sont extradés. Quelques-uns retournent volontairement chez eux. Mais il y en a d'autres qui sont repoussés. Et alors je me demande quel est le sort des patients psychiques étrangers. Parce qu'on ne peut pas en savoir, n'est-ce pas? Et les maladies psychiques peuvent-elles aussi avoir un relief culturel? Un Africain, c'est pas, il réagit tout autrement. Et la société occidentale peut-elle rendre certaines personnes malades? Et je me demande aussi si les institutions ou les prisons ne peuvent pas tomber malades. Un Kurde avec lequel j'ai bon contact et que je considère psychiquement en santé s'est exprimé de nombreuses fois sur le fait que notre société occidentale a un comportement équivoque. par exemple avec les enfants, les prisonniers et les malades. Et pour conclure, j'aimerais vous présenter les quelques thèses, si j'ai encore le temps. Alors, dans la prison, il n'y a pas de matin. J'ai déjà cité ça. Le monde carcéral est un monde artificiel. Il possède ses propres lois, ne connaît pas de qualité de vie particulière si ce n'est pas qu'elle pourrait, qu'elle pourrait être créée par les prisonniers eux-mêmes. Je pense que c'est très important aussi de voir que les détenus vivent leur culture. Deuxièmement, perspective sur une réhabilitation future. Une société qui enferme certaines personnes doit se soucier d'être à même de leur offrir une fois de nouveau une place en son sein. Ceci afin que les futurs libérés puissent en construire un futur et connaître ainsi le sens de la vie. Et voici, je vous laisse lire ces quelques phrases. Ces quelques phrases, j'essaye de répondre à ce sujet qui a été posé, mais je sais que c'est jamais fini, n'est-ce pas? Et donc, je remercie les responsables d'avoir invité un pasteur. Je pense que c'est important aussi de voir, parmi le personnel, il y a des pasteurs. Et que je remercie aussi au nom de mes collègues catholiques et les musulmans d'avoir eu la chance de parler devant ce public. Merci.
Là, j'arrange mes annexes tout d'abord, c'est important. Mais oui, comme ça je le prends.
Oui, ça va mieux, je crois.
Alors, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'avoir été invité dans cette assemblée, mais je suis un petit peu inquiet, parce que hier, le GRAP m'a téléphoné en m'invitant à donner le texte écrit de ma conférence. Or, malheureusement, je n'ai aucun texte écrit. Alors, je suis extrêmement inquiet, je vais faire, c'est plutôt une causerie à bâton rompu, et vous m'excuserez des imperfections de cette causerie. Notre société est très malheureuse, c'est-à-dire que, inévitablement, certains de ses membres ne respecteront pas les règles impératives qui sont fixées par elle. Ils enfreindront ces règles, ils commettront des délits. Et la société ne peut pas s'empêcher de réagir, doit réagir contre ces contraventions, contre ces infractions. Elle réagit comment? Eh bien, sous réserve des cas où l'on peut mettre du sursis, elle punira, elle punira en infligeant une peine de réclusion, d'emprisonnement ou de détention. Alors, l'article 37 du Code pénal dit ceci, j'ai vu qu'il y a le chef du service pénitentiaire, il connaît bien cette disposition. L'article 37 du Code pénal dit ceci, c'est que les... Voilà, je m'en vais le lire. C'est que... Voilà, c'est que la réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. Alors moi, je prétends que cette disposition est un leurre. La prison, en réalité, ne fait que peser sur celui qui a commis un délit. Il a déjà des difficultés, on l'enfonce. Sans doute, l'intéressé a-t-il la bochu aux établissements de la plaine de l'Orbe, couvert et gîte. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'a aucune initiative et lorsqu'il sortira d'une longue peine privative de liberté, il ne saura souvent pas se réadapter à notre société. Bien plus, dans une période telle que la nôtre où il y a passablement de chômage, il risque de ne pas trouver un nouvel emploi. Parce qu'on l'employeur éventuel lui demandera son curriculum vitae et automatiquement, on constatera que pendant les deux dernières années, il y a quelque chose qui manque et on lui demandera « qu'avez-vous fait ?» et il devra dire « j'ai été en détention ». Et alors l'employeur, qui manifestait un certain intérêt pour le candidat, dira tout à l'heure « non, écoutez, la place est déjà pourvue ». Et alors évidemment, il arrive de temps en temps en tout cas, que certaines personnes qui ont subi une peine de prison et qui en sortent avec l'espoir de s'en sortir, de se tirer d'affaires, de mener une existence normale, qui cherchent des emplois, voient leur démarche aboutir à un échec complet. Et quand ces tentatives de prise d'emploi se multiplient vainement, ces personnes se découragent et retombent dans la délinquance. J'ai souvent dit à mes clients qui font des peines de détention et qui sont en prison que le moment le plus dur n'est pas peut-être en prison, mais que c'est peut-être le moment où on sort de détention et on retrouve la vie normale avec toutes ses déceptions. Il est certain que la prison est un pis-aller. Alors, notre législateur a cherché d'autres voies. Le principe est la pleine responsabilité de l'intéressé. C'est-à-dire que la règle, c'est celui qui commet un délit, se rend compte de la portée de son acte et agit d'après cette appréciation. Mais il y a des cas où ce libre arbitre n'existe pas, où la possibilité d'apprécier l'acte et la possibilité de se déterminer d'après cette appréciation est limitée ou même exclue. Il est évident, par exemple, que si je consomme 3 litres de vin, eh bien mon comportement ne sera pas le même que si je suis absolument sobre. Et il est évident aussi que si je suis un toxicomane, je ne peux pas agir selon mon libre arbitre. C'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée. Et pour ceux qui ont une responsabilité limitée, et notamment pour les malades mentaux, le Code a prévu diverses dispositions autres que l'emprisonnement. C'est l'article 43 du Code pénal, qui commence comme ceci: lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis en rapport avec cet état un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, lorsque cet état mental exige un traitement médical ou des soins spéciaux, et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. Il est évident que pour tous les délinquants, la solution miracle, c'est le traitement ambulatoire. On vous met une peine, on suspend cette peine, et puis ensuite, on vous invite à voir de temps à autre un psychiatre. Mais il ne faut pas se leurrer, le traitement ambulatoire est soumis à des conditions très strictes. Et le tribunal fédéral, dans un arrêt du 2 septembre 1997, par exemple, dit que le traitement ambulatoire ne doit être ordonné que s'il offre de bonnes chances de resocialisation et qu'il soit à l'évidence compromis gravement par l'exécution de la peine privative de liberté. Il doit intervenir également en faveur de délinquants inoffensifs dont l'état mental exige un traitement médical ou des soins spéciaux, enfin de délinquants peu dangereux qui ont besoin d'un traitement médical à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. Donc pour qu'il y ait un traitement ambulatoire, il faut qu'il comporte de bonnes chances. Et il faut en plus qu'il soit à l'évidence compromis par l'exécution de la peine privative de liberté. Je vois dans cette salle une personne que j'apprécie beaucoup, M. le docteur Gravier. Et alors, M. le docteur Gravier a instauré, à l'intérieur de la prison, des traitements ambulatoires. Et alors, quand on plaide pour avoir un traitement ambulatoire sans exécution de peine, on vient nous dire, mais vous comprenez, en réalité, il y a un excellent médecin, un excellent docteur, et vous pourrez suivre ce traitement ambulatoire à l'intérieur de la prison. Si bien qu'il y a un effet pervers de tous les efforts de ce très honorable docteur Gravier, n'est-ce pas? Souvent, on nous l'a dit. Excusez-moi, docteur. Bon. En réalité, quand nos tribunaux veulent ordonner un traitement ambulatoire, ils ne prendront pas cet argument et ils l'ordonneront nonobstant les soins magistraux que peut donner le docteur Gravier. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Traitement ambulatoire, ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a ensuite le traitement, le traitement en hôpital ou en milieu, dans un établissement pour toxicomanes. Ça, c'est quelque chose de très général, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de personnes qui consomment des stupéfiants et qui, pour payer leurs stupéfiants, deviennent également des vendeurs, des trafiquants et qui commettent des actes assez graves. Et alors, ils ont la possibilité, souvent, d'être mis dans un établissement pour toxicomanes. Alors là, c'est assez intéressant pour l'avocat, comment la chose se présente très souvent. C'est un peu le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, voilà, je m'en vais vous expliquer ce que c'est. Ben, quand on est consulté, la personne qui est en prison nous dit, écoutez, quelle est la peine que je risque? Quelle est la peine que je risque? Si par exemple, la personne a fait déjà une année et demie de détention préventive et qu'on lui répond, voilà, ben, ce que vous avez fait, c'est assez grave, mais vous n'aurez pas plus de 2 ans et demi, elle réfléchit immédiatement, dit, 2 ans et demi, ça fait 30 mois. Je peux espérer la libération conditionnelle au bout de 20 mois. J'ai déjà fait une année et demie, par conséquent, il me reste 2 mois. Je ne veux surtout pas de traitement, j'ai pas besoin de traitement dans un établissement pour toxicomanes. Je ne veux surtout pas être mis dans un établissement pour toxicomanes. Si la personne a fait 6 mois de détention préventive et qu'elle risque une peine de 4 ans, tout à coup, son raisonnement change absolument. Elle dit, ah non, écoutez, je veux absolument me guérir et je désire aller dans un établissement pour toxicomanes. C'est ce que je rappelle le rapport qualité-prix. Très souvent, évidemment, on ne peut pas généraliser. Il arrive d'ailleurs que des personnes en dehors de tout délit aillent dans un établissement pour toxicomanes. Mais ce rapport qualité-prix, on le connaît, nous, on le connaît fréquemment. Et que faut-il en penser? Personnellement, je ne suis pas négatif avec ce raisonnement, contrairement à plusieurs personnes. N'est-ce pas? Il arrive que des personnes, pour des motifs purement utilitaires, pour être aussi peu privées de liberté, pour être le plus rapidement libre, préfère aller dans un établissement pour toxicomanes plutôt que d'avoir une longue peine privative de liberté. C'est un raisonnement utilitaire. Au début, elles ne sont pas motivées forcément par le désir de s'en tirer. Mais il est tout à fait possible qu'une fois qu'elles soient dans cet établissement pour toxicomanes, elles se rendent compte que ça leur fait du bien. Et elles arrivent à se libérer de leur penchant, par exemple, pour la toxicomanie. Donc, d'une manière générale, on doit dire que les mesures sont préférables à la prison, moins théoriquement. La prison, j'ai dit ce que j'en pensais au début, les mesures, c'est quelque chose d'utile parce que ça permet d'utiliser le temps de privation de liberté au fond à des buts, à un but de guérison. Maintenant, nous avons encore la troisième chose, la troisième possibilité, ce sont les délinquants dits dangereux qui seront internés en milieu carcéral et soignés en milieu carcéral. Donc je dis que je préfère de beaucoup, je préfère les mesures. Mais il y a un mais, et un mais qui me semble extrêmement important. Il ne faut pas oublier, et l'avocat particulier ne doit pas oublier, que c'est le juge qui garde le contrôle de la situation. Quand on dit à quelqu'un... Écoutez, monsieur, vous pourrez bénéficier d'un traitement ambulatoire, vous pourrez aller dans un établissement pour toxicomanes, c'est très bien. C'est très bien. Mais le juge ne fait pas cadeau. Il suspend la peine. Et si l'intéressé ne respecte pas le traitement ambulatoire, si l'intéressé consomme à nouveau de la drogue à plusieurs reprises dans l'établissement, à l'occasion de ses sorties de l'établissement toxicomane, de ses jours de libre de l'établissement toxicomane, à ce moment-là, on révoquera la suspension de peine et l'intéressé sera appelé à subir la peine qui lui est infligée. Donc, ce n'est pas un cadeau que la justice a fait, c'est simplement une sorte de sursis. Et c'est assez important parce que vous savez que le sursis ne peut être accordé que jusqu'à 18 mois d'emprisonnement. Quand on a une peine de 2 ans ou 2 ans et demi, eh bien, on peut, par la voie de la suspension de peine, accorder une sorte de sursis. Mais ce n'est qu'un sursis. Si l'intéressé ne se comporte pas bien, eh bien, il sera appelé à subir sa peine. Il sera appelé à subir sa peine dont on déduira les jours de privation de liberté en établissement pour toxicomanes ou en hôpital. Là, on en tiendra compte quand même. Maintenant, il y a un autre point qui est très important. C'est que, au fond, celui qui est condamné à 2 ans et demi de prison sait que, quelles que soient les circonstances, au bout de ces 30 mois de détention, il retrouvera la liberté, quel que soit son comportement. Tandis que celui qui est sous le coup d'une mesure est soumis à l'arbitraire, en quelque sorte, du service pénitentiaire et des autorités de détention. Alors, il arrive, il faut faire très attention. Nous avons par exemple l'article 10 du Code pénal. L'article 10 du Code pénal dit ceci: n'est pas punissable celui qui étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas au moment d'agir la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. En d'autres termes, si je suis totalement irresponsable, on ne me punira pas. On prendra contre moi une mesure. Très bien, je n'ai pas de peine. Mais il m'est souvent arrivé de recourir contre une ordonnance admettant l'irresponsabilité totale de mon client, parce que c'est très dangereux. Ensuite, on dira souvent, ce sont des délinquants qui sont qualifiés de dangereux, on les met ensuite dans le milieu carcéral, donc on les traite malgré tout, et ensuite on ne les libère plus, ça se prolonge indéfiniment. Il arrive que pour des peines, au fond très limitées, des peines de 15 mois d'emprisonnement, des personnes restent des années en prison et n'arrivent pas à se libérer. En principe, on en était réduit, je dirais, à l'arbitraire, je vous dis bien, à l'arbitraire du service pénitentiaire. Mais maintenant, ça me semble très important de le dire, c'est que en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, et ceci n'est pas très connu des avocats parce que c'est quelque chose d'assez spécial, Au terme de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant de l'internement d'un délinquant souffrant de troubles mentaux, il y a lieu de s'assurer que les conditions de cet internement sont remplies non seulement quand il a été ordonné, mais tout au long de son exécution. Cette disposition est violée en cas d'absence d'un recours judiciaire permettant de faire contrôler périodiquement l'internement. Alors ça, le service pénitentiaire n'aime pas tellement, n'est-ce pas? Parce qu'on leur dit, bon, écoutez, vous dites que l'intéressé est dangereux, nous avons procédé à certains contrôles, nous sommes tout puissants, nous estimons que... Et puis on dit, bon, vous estimez que, très bien, nous allons recourir au juge. Non, non, vous ne pouvez pas recourir au juge, il n'y a aucune disposition dans le code de procédure pénale ou ailleurs. Et puis on recourt au juge, et puis les tribunaux ont fini par admettre le recours au juge. Ce qui est une très bonne chose, parce qu'on court-circuite le service pénitentiaire, qui fait du très bon travail, je veux bien l'admettre, surtout que... voici, on court-circuite le service pénitentiaire, et puis... ensuite, on les soumet au contrôle judiciaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement heureux. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui l'a instauré. Bon, résumons la situation. Alors, nous disons que la prison punit, élimine certains délinquants pendant une certaine période, mais qu'elle a, que ce n'est pas une... que c'est un pis-aller et qu'elle a le plus souvent un effet négatif. Nous disons que les mesures sont une bonne chose en ce sens que l'on emploie utilement le temps de privation de liberté pour tâcher de faire sortir le délinquant de ses problèmes et de telle sorte qu'il ne récidive plus. Mais nous disons aussi deux choses en ce qui concerne ces mesures. C'est qu'il ne faut pas oublier que l'État garde la possibilité d'annuler la suspension de peine et d'ordonner l'exécution de la peine d'emprisonnement. Donc ce n'est pas un cadeau que fait l'État. Et surtout que ces mesures peuvent avoir un effet pervers, grave, parce que l'intéressé qui est condamné à une telle mesure risque de rester... un temps indéterminé et souvent plusieurs années dans un milieu carcéral, si il est considéré comme dangereux. Et alors, à cet égard, je crois que c'est tout de même assez utile. L'un de mes clients m'a écrit, et je ne résiste pas au plaisir, mais au devoir de vous lire sa lettre en conclusion de mon intervention. Cher maître, c'est gentil de dire cher maître, n'est-ce pas? Ça, c'est tout de même gentil, ça fait plaisir. Quand un avocat reçoit une lettre d'une personne, on lui dit pas monsieur, on lui dit pas maître, mais on lui dit cher maître. Il se dit, ouh là 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 là, c'est pas si mal. Bon, cher maître, j'ai appris par le GRAP que vous participiez au colloque patients psychiques en prison. J'aimerais beaucoup que vous lisiez ou donniez ce texte aux participants de ce colloque. Alors voici. Messieurs et mesdames, je vous demande la permission de pouvoir m'introduire dans ce colloque patient psychique en prison. J'estime que mon opinion a sa place parmi vous, éminents chercheurs et spécialistes de l'esprit humain. Vous voyez comme il parle bien, hein, éminents chercheurs et spécialistes de l'esprit humain. Étant moi-même un patient psychique, je trouve que mon avis sur la question devrait vous intéresser et vous apporter une autre vision des choses, c'est-à-dire celle du patient lui-même, celui-là-même dont vous avez la charge. D'abord, j'aimerais vous demander s'il est utile d'ajouter l'enfermement à l'enfermement psychique, car la maladie est elle-même une prison, ne pensez-vous pas? Et d'ailleurs, un homme enfermé, quel qu'il soit, malade ou pas malade, devient-il meilleur lorsqu'il est privé de sa liberté? Je laisserai parler le taux de récidive des détenus libérés. Enfermer un homme qui est déjà prisonnier de sa maladie me semble un non-sens et surtout inefficace. Le mal-être qui est à l'origine même de la maladie ne pourrait que s'accroître et le malade qui se sent déjà rejeté le ressentira encore davantage et son trouble, sa révolte et son éventuelle violence ne pourraient que s'en trouver accrues. Le rôle de la justice est de sévir, de punir, de réprimander, de faire payer au justiciable délinquant le prix de ses errements. Bien. Lorsque mon chien a commis une faute, si j'enferme 3 jours dans les cabinets pour le punir en espérant qu'il s'amende et qu'il s'améliore, je me trompe lourdement. Certes, s'il se met à mordre tout le voisinage ou s'il vole la pâtée du chat de la voisine, alors peut-être achèterais-je une muselière ou pire, peut-être le condamnerais-je à la peine capitale. Mais si je suis forcé d'en arriver à telles extrémités, je serai alors forcé de me remettre en question moi-même, car cela voudrait dire que je me suis fourvoyé dans son éducation et que je ne peux, de par ce fait, le traiter en responsable et lui faire subir la punition. Enfermer un chien agressif ou un malade a le même résultat, en faire à coup sûr un monstre. Les patients psychiques ainsi que les autres détenus devraient être traités avec respect et intelligence, car comment donc voulez-vous enseigner ces choses si vous ne donnez pas d'abord l'exemple vous-même? Cette lettre n'est pas uniquement là pour prendre ma défense, mais aussi celle de tous les sans-voix qui sont ici et que j'ai fréquentés. Tous ces gens, moi compris, ne comprennent pas l'attitude répressive de l'administration et de la psychiatrie. La psychiatrie, qui est une science dite humaine, se devrait d'apporter au problème de la violence une solution non violente et non pas de la répression et un arsenal de substances chimiques dangereuses, invalidantes et inefficaces. Je dois dire en particulier que cette personne, on lui dit vous pourriez peut-être sortir, mais il vous faut prendre certains remèdes de psychotropes et il s'y refuse absolument. Voilà, je le dis en passant. Évacuer des individus de cette société en les plaçant à l'article 43 et en disant qu'il n'y a plus rien à faire est non seulement scandaleux contre les droits élémentaires de l'homme et contre le bon sens le plus simple. J'espère que cette lettre vous sera communiquée. J'espère surtout que vous éloignant des théories somptueuses qui vont avoir cours dans ce colloque, vous regarderez la réalité telle qu'elle est, que vous remettrez en cause les principes qui n'ont donné que peu de résultats probants. Je vous remercie humblement de m'avoir laissé donner mon opinion et je vous souhaite un bon et fructueux colloque. Voilà qui est fait, je me suis acquitté envers ce client. Je pense que l'opinion qu'il a communiquée n'est pas sans intérêt et je ne m'en distance que fort peu. Merci.
Merci à l'avocat et je vous propose de faire une pause et ensuite les témoignages, comme celui-ci peut-être, vous seront communiqués à la suite de cette pause qui va nous porter jusqu'à 4h30. Donc nous vous attendons à 4h30 dans la salle. Merci.